Sans réserve, le balado.
Je suis Monica, je suis une femme, mais avant tout, je suis une personne. J'ai mon style de leadership, j'ai ma façon de faire les choses. Je fais mon MBA. J'avais quand même 51 ans. Puis j'ai réalisé que ma mère, quand elle tournait au Danak et elle a appris la langue abénaki, elle avait 50 ans. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Il y a des étrangers qui me rencontrent et qui me disent qu'ils connaissent la PPL, qui écoutent ça. Je me dis, yes, on a une portée. La langue abénaki, c'est tellement une belle langue, quasiment une langue chantée. Quand tu m'entends, c'est très mélodieux, puis c'est comme une musique.
Que diriez-vous d'aller à la rencontre de Monica Hillé?
Ben, tout ce qu'on veut, c'est prendre notre place, prendre notre parole, qu'on nous écoute, qu'on arrête de parler de nous, mais qu'on écoute ce qu'on nous, on a à dire. Pour moi, au Danak, c'est chez moi. C'est même si j'ai jamais habité là à temps plein. On y allait tous les week-ends, tous les étés. J'ai passé avec ma grand-mère. C'était mon chez-moi, là. Ma famille et mes amis, c'était là, là. Et j'adorais aller là. La famille à ma mère, ben, c'est une famille avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'est la famille élargie. C'est les cousins, les tantes, les oncles, tout le monde faisait partie de la famille. Là, on se tenait solide. Donc, moi, je dirais qu'au Danak, c'est vraiment mon centre. C'est mon épicentre, là. Mon père, qui était un Hongrois, un immigrant, il est arrivé ici avec rien. Ma mère vient d'une famille, d'une communauté, d'une réserve. Il n'y avait pas grand-chose. Puis, ensemble, ils ont vraiment bâti leur vie puis se complétaient très, très bien. Et ça a été des amoureux jusqu'à quand mon père est décédé.
C'était un couple qui se complétait énormément. Deux cultures complètement différentes. Ma mère parlait le français, mais pas beaucoup l'anglais. Mon père parlait un peu l'anglais, pas vraiment le français. Mais l'amour, hein, ça n'a pas de langue. Mon père vient quand même d'une famille et aussi d'un pays qui a beaucoup lutté pour sa culture, ses traditions, la langue. La Hongrie, la Révolution hongroise, on s'entend. Je pense que mon père avait ce sentiment aussi d'attachement et de sensibilité. Puis je pense, en tant qu'artiste aussi, c'est beaucoup inspiré de la vie des Abénaki dans ses œuvres. Et mon père, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup écouter. Il avait une grande écoute et appréciait beaucoup les gens pour qui les gens étaient. Donc, la communauté, la famille de ma mère est devenue sa famille. Lui, il a tout perdu à l'âge de 11 ans sur la Deuxième Guerre mondiale. Il a une vie très, très difficile. Donc, cette communauté-là l'ont adoré quasiment instantanément. Puis c'est une belle amour aussi qui est arrivée. Ma grand-mère, mon père l'appelait maman. Les cousins, les cousines à ma mère, c'était ses cousins, ses cousines. Les oncles, les tantes, c'était ses oncles et ses tantes. Donc vraiment, il a été beaucoup aimé et apprécié.
Radio-Canada, c'était la grande tour. Ma mère travaillait là, mon parrain a travaillé là. C'est comme, ben oui, mais moi, je vais travailler là un jour. Là, je vais travailler en com, je vais travailler en télé. J'aimais beaucoup les communications. C'est une vision qui ça m'intéresse. Non, j'ai travaillé à Radio-Canada, mais vraiment en relation avec l'auditoire, donc en com. Puis je voulais faire le tour en production. Malheureusement, à Radio-Canada, j'ai pas eu la possibilité. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont soutenu, puis qui avaient des contacts. Puis j'ai rencontré les gens de l'ONF. Puis je suis rentrée là comme recherchiste sur des dossiers autochtones. Puis j'étais assistante réelle. Puis l'ONF m'a donné la possibilité de réaliser mon premier documentaire. J'ai passé à travers un programme de formation pour réalisatrice. Alors, j'ai beaucoup le soutien. Ça m'a aidé à découvrir l'importance de raconter des histoires et comment les raconter avec le son et l'image. J'aurais aimé poursuivre, sauf que j'avais un bébé, puis je me suis dit, bon, ben là, je dois vivre. Je ne peux pas vivre juste de ça. Alors, je suis rentrée aux femmes autochtones en communication. Puis ensuite, j'étais à l'Assemblée des Premières Nations, toujours en communication. Ensuite, je suis retournée à l'ONF en communication. Je me dis, bon, ben, je pense que c'est ce milieu-là. Je me plais, je suis bien, j'aime ça. Puis ensuite, la PPN a ouvert un bureau à Montréal. Et il cherchait quelqu'un pour gérer tout le côté programmation, marketing. Dans le fond, c'était un poste de liaison avec le Québec. Et puis là, je me suis dit, ah, regarde donc ça. J'aime les communications. Je connais le milieu de la production. J'ai un intérêt, évidemment, pour les autres femmes. C'est le parfait mélange, autant personnel que professionnellement.
APTN est quand même jeune comme réseau de télé. Mais il y a une grande transformation qui se fait présentement. On a lancé notre télé par contournement, APTN Lumi. Et pour le moment, c'est juste disponible au Canada. Mais le but derrière Lumi, c'est de un jour qu'il soit disponible aux États-Unis, mais aussi à l'international, surtout dans des pays qui ont un intérêt pour les cultures et les traditions autochtones. On parle peut-être l'Allemagne ou la France, par exemple. Et dans d'autres pays où il y a une bonne population autochtone, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et que APTN Lumi devient le point de référence pour du contenu produit et réalisé par les Autochtones. Et que ça se passe là. Donc, vraiment devenir l'expert en tout ce qui a rapport aux histoires racontées par les Autochtones.
J'aime ça brasser les choses. Je fais attention quand même. Je pense qu'APTN est un réseau qui a la réputation de prendre des risques. En programmation, on prend des risques. Et je pense que ça fait notre force. On soutient beaucoup les créateurs autochtones en leur donnant la liberté créative de leurs projets. On ne s'ingère pas, comme d'autres diffuseurs parfois le font, dans les détails des projets. Nous autres, on fait confiance. Et je veux dire, si on veut avancer, bien, c'est prendre des risques. Puis, des fois, est-ce qu'on est toujours en accord avec ce qui est mis à l'écran? Pas nécessairement qu'on doit l'être, non. Mais il faut que ce soit bien fait. Et c'est là où notre intervention se fait, c'est qu'on s'assure que c'est une voie professionnelle, qu'il y a une structure en place, que le discours est bien écrit, et on laisse aller. On a une très grande confiance avec nos créateurs.
Je trouve ça tellement important de montrer la beauté de ces langues-là. À APTN, les langues autochtones ont vraiment une place très importante. Je trouve qu'en tant que réseau, c'est notre devoir de protéger, de présenter ces langues-là. Et en tant que directrice générale, c'est vraiment un de mes piliers, c'est vraiment de développer davantage la présence des langues autochtones. Et moi, quand je peux, je le fais. Je vais à un endroit, je me présente en Abénaki. Je dis toujours quelques phrases en Abénaki au début de mon discours ou à la fin, juste pour montrer que ces langues-là existaient avant, qu'il y a une beauté de ces langues-là, mais il ne faut pas les oublier. Malheureusement, il y a bien de ces langues-là qui n'existent plus. Il y en a qui sont en voie de disparition, comme l'Abénaki. Donc, chaque opportunité que j'ai, je vais le placer. Et c'est une passion pour moi, ces langues-là.
On pousse beaucoup pour que les Autochtones et les médias autochtones soient reconnus aussi les langues autochtones, au même niveau que le français et l'anglais. Le Canada, je veux dire, il y a des premiers peuples qui fit qu'il y avait une langue et une culture bien distincte et unique. Puis on est dans le temps de la réconciliation. Ben écoute, on doit reconnaître que ces gens-là étaient ici avant et qu'il y avait cette langue-là, que ces langues-là sont extrêmement menacées. Donc, le Canada, c'est pas juste le français, l'anglais, mais les langues autochtones. Ma mère, son nom de famille, c'est Nolet. Mais le nom Abénaki, c'est Wawanolwa. C'est un nom qui a été diminué, parce que Wawanolwa, c'était compliqué à dire et à écrire. Mais quand on regarde la signification du mot Wawanolwa, c'est une traduction vraiment littéraire, serait celui qui met quelqu'un hors de la voie, au sens littéral ou figuré. Donc, dans le fond, c'est comme un trailblazer, quelqu'un qui va à l'avant, qui fonce. Non, ça marche pas. Moi, je me rends là. Dans le fond, je trouve que c'est ce que je fais. Et pour le faire aussi, moi, je prends les opportunités. Donc, moi, je vois des opportunités et je fraye mon chemin à travers ça. Je pense que c'est comme ça que j'arrive à faire passer mon message. Mais avec beaucoup de diplomatie, j'aime expliquer, mettre les choses en contexte pour que les gens puissent comprendre. Ça, je pense que ça aide. Expliquer le pourquoi, le raisonnement derrière. Et ça, ça nous manque souvent, si on le précise de l'avoir. Ça, je vois que ça fait des différences. Le but, c'est d'avoir la reconnaissance qu'on fait partie de cette société. On a une histoire et un vécu. Et les gens doivent connaître cette histoire-là, le vécu. Parce que la communication, pour moi, amène l'appréciation. Et lorsqu'on commence à apprécier quelqu'un, ben c'est à ce moment-là que je pense que les stéréotypes commencent à tomber.
Sans réserve, le balado est une production d'Animikissi Digital Production en collaboration avec les productions Mustang. À la réalisation, Sandy Pinteus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.